La revue de presse internationale avec vous, Camille Magnard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez trouvé des 1er avril avec des poissons d'avril? En tout cas, vous avez été particulièrement vigilant ce matin dans votre lecture de la presse.
Et oui, j'étais vigilant à essayer d'éviter ces poissons d'avril. Et force est de constater que plus l'actualité internationale progresse et plus il est difficile de faire le tri entre informations sérieuses et celles qui sont volontairement fantaisistes. C'est comme si c'était tous les jours le 1er avril, se plaint un brin désespéré David Dodwell dans le South China Morning Post. Il évoque le Brexit, source, c'est vrai, intarissable de surréalisme politique depuis un peu plus de 1000 jours, mais on est tenté de reprendre la formule pour d'autres grands titres ce matin. En Ukraine, par exemple, c'est donc en ce 1er avril 2019 qu'on a confirmation du fait qu'un humoriste de 41 ans, sans aucune expérience politique, a de bonnes chances de devenir le prochain président. Volodymyr Zelensky a donc réussi son pari lors du premier tour de la présidentielle. Hier, selon les derniers chiffres provisoires qui s'étalent en une du site Ukrainska Pravda, il récolte un peu plus de 30% des votes, soit presque deux fois plus que celui de son adversaire au second tour. Dans trois semaines, ce sera le président sortant Petro Poroshenko. Ce qui frappe en regardant la cartographie du vote telle qu'elle apparaît dans les médias ukrainiens, c'est que pour la première fois depuis très longtemps, l'Ukraine n'y apparaît pas divisée en deux, pro-européens à l'ouest et pro-russes à l'est. Bien sûr, les régions de Lviv et d'Ivano-Frankivsk, près de la frontière polonaise, ont placé Poroshenko en tête, tout comme les deux régions sous commandement séparatiste à l'est, Donetsk et Lugansk, ont plébiscité le pro-russe Boyko. Mais l'immense majorité de l'Ukraine s'est laissée emporter pour ce premier tour par la vague Zelensky, qui repousse donc l'habituelle polarisation est-ouest du pays.
D'autant que les deux candidats du camp pro-russe totalisent seulement 14%, voilà le mot qui n'était pas inscrit à travers le pays.
Et oui, et ça fait dire au correspondant en Ukraine de The Economist Arkady Ostrovsky que le phénomène Zelensky avec son équipe de campagne constituée de quarantenaires surdiplômés, ce phénomène Zelensky constitue une rupture franche et inédite avec l'ère de la transition post-soviétique. Nous avons déjoué le scénario imaginé par les Russes pour cette élection. Ça, ce sont les mots de Petro Poroshenko cités par le quotidien russe Novaya Gazeta. Le président sortant s'y félicite d'avoir sauvé sa peau, d'aller donc au second tour, ce que selon lui Moscou voulait éviter à tout prix. De là à faire de Volodymyr Zelensky une marionnette du Kremlin, il n'y a qu'un pas et ça dit bien que d'ici au second tour dans trois semaines, Poroshenko va tout faire pour faire le plein de ralliements, forcer son image de commandant en chef de l'Ukraine indépendante face à l'impérialisme russe dans l'Est et en Crimée. La chance qu'il va avoir, analyse le journal en ligne Vzgliad, toujours depuis Moscou, c'est que Volodymyr Zelensky, lui, n'a d'autre choix que d'aller chercher les votes qui lui manquent dans les régions et dans les populations plutôt pro-russes. Il va donc devoir se mouiller sur des dossiers sensibles, comme le dialogue possible ou pas avec les leaders séparatistes du Donbass et de Lugansk, affirmer son refus d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, exactement le genre de position qu'il a consciencieusement évité d'affirmer avant le premier tour. Faire les yeux doux aux Russes sans pour autant effrayer l'ambassade des États-Unis à Kiev. Voilà la marge de manœuvre très étroite pour Volodymyr Zelensky, lit-on dans Vzgliad. Mais l'humoriste, vu à la télé, l'a encore répété hier soir. Pour une fois, il n'est pas là pour amuser la galerie.
Et en Algérie, ce ne sont pas tant les poissons d'avril que les fausses informations et autres rumeurs qui fleurissent dans la presse.
Et ça fait dire à Mustapha Benfodil dans El Watan que les événements s'accélèrent frénétiquement ces derniers jours dans un scénario type des dictatures agonisantes et des ambiances de fin de règne. Dans cet étouffant microclimat prospère, toutes les rumeurs, intox et fake news brassées par certains médias aux intérêts douteux. La chaîne privée Echorouk TV annonçait par exemple samedi soir que la gendarmerie nationale algérienne était en train de se déployer massivement dans les rues de la capitale. Des centaines d'Algérois ont donc sauté dans leur voiture pour aller vérifier par eux-mêmes. Et en rentrant chez eux, ils n'ont pas été tendres sur les réseaux sociaux pour démonter cette manœuvre de désinformation. Et parmi le grand flou informationnel qui caractérise les médias algériens en ce moment, il y a un autre cas d'école autour du plus décrié des hommes d'affaires du pays, Ali Haddad, alias le goudronneur. Il était jusqu'à très récemment le patron des patrons d'Algérie, premier entrepreneur du BTP et très lié au pouvoir politique, on le dit particulièrement proche de Saïd Bouteflika, le frère du président. Et donc, selon Liberté Algérie, Ali Haddad a été interpellé hier alors qu'il tentait de quitter l'Algérie de nuit et par une route secondaire à la frontière avec la Tunisie. L'info est confirmé par El Watan, mais le quotidien s'interroge sur les raisons de cette arrestation, soutenant que Haddad n'est sous le coup d'aucune interdiction de quitter le territoire algérien. Liberté Algérie, de son côté, laisse entendre le contraire, affirme que l'homme d'affaires avait déjà essayé de prendre le large à 3 reprises ces derniers jours par l'aéroport international d'Alger. Dans un pays qui semble déterminé à en finir avec un système corrompu, on comprend bien pourquoi cette image du grand patron fuyant la chute est essentielle comme un prémisse nécessaire à la mère de toutes les rumeurs véhiculées ce week-end par l'autre chaîne télé controversée, Ennahar TV. Figurez-vous que le président Bouteflika pourrait démissionner dès demain matin. Même les médias russes reprennent l'info ce matin. C'est forcément que c'est sérieux, non?
Et puis on termine avec une information bien vérifiée, celle-ci. Le Japon entre dans une nouvelle ère.
Oui, c'est vrai. C'est l'ère Reiwa, traduite pour nous par l'Asahi Shimbun comme l'alliance des deux symboles de la langue japonaise, la bonne fortune et la paix. Voilà qui est plutôt prometteur pour donc cette nouvelle ère impériale dans laquelle entre le Japon, avec l'arrivée au pouvoir, sur le trône dans un mois précisément du nouvel empereur Naruhito, le fils de Aki Ito, qui lui a souhaité abdiquer. Reiwa, ce sera la 248e ère impériale de l'histoire japonaise, signe de persistance d'un système ancestral et folklorique auquel les Japonais ont l'air de tenir, à en juger en tout cas, nous dit le Wall Street Journal, par les passions qui se sont déchaînées ces derniers jours pour tenter de deviner le nom choisi pour cette nouvelle ère. Ce sera Reiwa, référence, nous apprend l'Asahi Shimbun, pour la première fois à une poésie traditionnelle non pas chinoise, mais bien japonaise en l'occurrence. Les vers choisis décrivent l'éclosion d'une feuille d'abricotier au début du printemps, fleur qui a survécu à un hiver particulièrement froid, de la poésie pour nous changer des poissons d'avril.
Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale à retrouver sur le site de France Culture, franceculture.fr.